Jacqueline Valois, vous avez connu Léo bien avant moi, en tout cas. Et justement, je voulais savoir quelles étaient, et d'une, vos impressions, et puis comment vous l'avez connu, en fait.
Eh bien, je l'ai connu grâce à Francis Claude, avec qui je faisais en 46 des émissions de radio. Et j'ai connu Léo au moment où il est revenu de Monte-Carlo et où il a commencé à chercher du travail, où il logeait dans une toute petite chambre rue des Saints-Pères, où il était miséreux. C'est ça, c'est toute sa gloire qui c'est merveilleux pour lui d'ailleurs. Parce que ce sont les souvenirs de... La misère, c'est autre chose. Il voyait ça autrement. Et Francis Claude a ouvert le Quai de Libette, rue Saint-Thomas d'Aquin. Et il a fait débuter Léo dans ce petit boyau, cette petite cave qui était un petit boyau, avec un petit piano droit, où Léo a commencé à chanter, où Léo a étonné tout le public qui venait là. Enfin, tout le public, c'était petit. Il y a peut-être, je sais pas, 50 places, et encore très serré sur les tabourets. Et Léo a été tout de suite plébiscité et a commencé à faire des chansons, à écrire des chansons. Il en a écrit plusieurs d'ailleurs avec Francis Claude. Il a écrit En dehors de l'île Saint-Louis. Ils ont écrit ensemble La vie d'artiste. Et puis après, j'ai connu Léo aux Assassins, ce petit restaurant où il jouait et chantait pour pouvoir... Il était nourri le soir.
Rencontré par hasard ici ailleurs, autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi rêver, de quoi chanter, tu croyais en ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. La fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi, comme c'est triste. Et pour emporter le phonomoi, je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Un jour on ne sait trop pourquoi, un étrange maladroit lisant mon nom sur une affiche. Ça parlera de mes succès, un peu triste, toi qui sais. Il lui dira que je m'en fiche.
Je mangeais à midi dans le restaurant qu'on appelle maintenant le restaurant des assassins. Parce que tout juste avant la guerre, enfin, quand j'étais étudiant, à deux reprises différentes, il y avait un jour un client qui était rentré dans ce restaurant et qui avait pris la tête d'un dîneur comme ça, et puis il avait tranché comme ça, avec un rasoir, 2 fois. Et j'ai dit à ce taulier qui s'appelait Jacques, je lui ai dit, écoute, tu devrais appeler ton restaurant les assassins. On était un peu en famille. Et le soir, il avait loué un petit piano droit. Et il me disait, Léo, écoute, après qu'on ait, que les gens aient mangé, tu fais ta petite soirée. Et il me donnait, je fais venir des copains à moi qui chantaient, il me donnait la moitié de la recette, de la limonade, comme on dit. Et nous partagions ça entre nous. Enfin, on vivotait, quoi. C'est une époque où on était vachement exploité. Quand j'étais quelque part, les gens venaient m'entendre. Surtout quand j'étais à Arlequin, il y a 53, 54. Et je me souviens, ils pouvaient mettre dans cette salle 200, 250 personnes. C'était fabuleux. J'étais payé comme une femme de ménage, quoi. Enfin, un peu plus, comment. Enfin, c'était horrible. C'était l'époque où les tauliers de Saint-Jean-de-Pré ont fait beaucoup d'argent et où ils exploitaient les artistes.
j'habite à Saint-Germain-des-Prés. Et tous les soirs, j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé. Et pour courir le Guilledou près de la Seine, souvent l'on est flanqué d'Apollinaire qui s'en vient musarder chez nos misères. C'est belle, on voulait s'amuser, mais c'est raté. On était trop fauchés. Regardez-les, tous ces voyous, tous ces poètes de dessous et leurs emblèmes. Regardez-les, tous ces fauchés qui font semblant de ne jamais finir la semaine. Ils sont riches à crever, d'ailleurs ils crèvent. Tous ces rimeurs fauchés font bien les rêves quand même. Ils parlent le latin et non plus fin. À Saint-Germain-des-Prés, vous qui passez rue d'Abbaye, rue Saint-Benoît, rue Visconti, près de la Seine, regardez le monsieur qui sourit, c'est Jean Racine ou Valérie, peut-être Verlaine. Alors vous comprendrez, gens de passage, pourquoi ces grands fauchés font du tapage. C'est belle, il fallait y songer, salut en l'air, à Saint-Germain-des-Prés.
Bien sûr, on a fait des bouffes, on a rigolé, on a bu du vin rouge, enfin c'était un joyeux vivant aussi, hein, un rigolo. Souvent, il racontait des histoires drôles, Léo, mais il avait un très sale caractère souvent aussi, oh là là. Quand ça lui plaisait pas, même en chantant, un jour au Code Libette, il y avait un client qui n'avait pas l'air d'accord avec ce qu'il chantait et qui parlait un tout petit peu, mais vraiment comme ça, tout doucement. Léo a plaqué un accord sur le piano, droit qu'il avait, le tout petit piano. Il a hurlé, il a dit au type, sortons, je te casse la gueule. Ça, c'était Léo. Parce que ce monsieur avait osé parler un tout petit peu, et il débutait. À ce moment-là, il n'était pas connu du tout, mais c'était Léo Ferré, ça. Voilà. Il ne se laissait pas faire. Il a bien fait, d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord. On respecte l'artiste, voilà.
Le piano du pauvre se noue autour du cou. La chanson guimauve, Toscanini s'en fout. Mais il n'est pas chien, il le lui rend bien, il est éclectique. Sonate ou Java, concerto polka, il aime la musique. Le piano du pauvre, c'est le Chopin du printemps. Sous le soleil mauve, les lilas de nos gens. Il recoule un brin à ceux qui se plaisent bien, il fait des avances. Ravel ou machin, c'est déjà la fin. Mais v'là qui recommence. Le piano du pauvre se loue autour des reins. La chanson guimauve, ça va toujours très loin. Car il n'est pas chien, toujours il dit rien. Il a la pratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les histoires de cœur finissent en musique. Le piano du pauvre est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, il n'y a pas que lui qui s'en fout. Car on n'est pas chien, on le lui rend bien, on est éclectique. Si tu loues bien machin, c'est déjà la fin de la guillotine. Le piano du pauvre, c'est pas qui le voit boulot. La chanson guimauve, on en prend tous un coup. Car on est proche, on a les moyens et le cœur qui plie. Ce Campaderewski sort de son écrit l'instrument de service. Le piano du pauvre n'a pas fini de jacter sous le regard fauve des rupins du quartier. Pendant que les barbus du vieil institut posent leur bésicle pour entendre au loin le piano moulin qui leur fait l'article. Le piano du pauvre dans sa boîte à baba, c'est pas l'air guimauve en se prenant pour Mozart. S'il a l'air grognon et joue sans façon déjà va perverse, c'est qu'il est pas chien et puis qu'il faut bien faire marcher le commerce.
Tu es une chérie.
Oh, ma petite dame, un sou pour une valse, c'est pas cher.
Comment que tu veux aimer les gonzesses quand tu vois les guignols qu'elles se trimballent? Non, c'est vrai que t'avais du goût, vieux, mais elle, je croyais qu'elle en avait aussi.
Moi, c'est l'homme que j'aimais. Voilà, l'humain, tel qu'il était. Alors, qu'il soit anarchiste, qu'il soit de droite, de gauche, du milieu, ça m'était égal. J'aimais lui, l'humain, l'homme. C'est l'homme. Voilà. C'est ça que j'aimais en Léo.
J'étais une espèce de type, une espèce d'oiseau de malheur, à mon piano. Et puis je chantais en m'accompagnant, donc je me servais de ma gueule, qui est expressive, mais souvent trop. Et puis je faisais des grimaces. Alors, c'est Nosferatu le vampire. C'est un mot qui a été repris l'autre jour par un type de la télévision, je ne sais plus qui. Il a dit, ah ben un critique de télévision. J'étais au Havre il n'y a pas longtemps et on est venu me filmer pendant 4 minutes. Et juste après, il passait le film Nosferatu et le vampire. Alors il parlait le critique, il a dit, vous avez vu Ferré qui ressemble on aurait dit Nosferatu et le vampire. Et puis après, nous avons vu Nosferatu et le vampire qui ressemblait à Ferré. Voilà. Eh bien, c'est peut-être un peu vrai aussi. Mais quand je m'accompagnais, j'avais mes mains prises, alors je croyais, ça c'était venu comme ça, inconsciemment, je jouais trop de ma gueule, et j'arrivais à faire des grimaces abominables.
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûtée par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne, c'est l'homme. Le sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, le gars grippé sur les pucelles. La chasse à court chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazon. C'est l'homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vie, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour comprend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est l'homme. Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le tourbain avec une veuve combattue. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien comprend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est l'homme. Un peu grise vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge, c'est l'homme. Le va-t-on guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe, le panoplie que l'on guérit à la buvette. C'est l'homme. L'inconnu qui salue bien pas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est là.
Catherine Sauvage, il vous a appelé la Grande Catherine. Alors, quand on porte ce nom, la Grande Catherine, est-ce que c'est pas dur à porter ou alors astreignant? Expliquez-moi.
Bon, ben, je veux dire que je me lève pas le matin en me disant « je suis la Grande Catherine hein, », faut pas exagérer. Et puis, vous savez, dans ce métier, les mots, on en dit beaucoup. On m'a appelé la Voix Ferrée aussi. Mais, ben non, Léo, ça a été un compagnon de route pendant fort longtemps, parce que je pense que j'ai toujours chanté Léo. Enfin, quand j'ai commencé à chanter, je l'ai rencontré presque tout de suite. Et dès que je l'ai rencontré, j'ai su que c'était mon auteur. Et je crois que tous mes tours de chant ont comporté toujours au moins la moitié de Ferré. Donc, je crois que s'il n'avait pas chanté lui-même, j'aurais pu chanter que du Ferré. Et puis, après 68, 70, par là... il a pris une nouvelle voie, c'est-à-dire qu'il est devenu beaucoup plus lyrique. Pendant très longtemps, toute l'époque où je l'ai chanté, c'était des chansons extrêmement ramassées. Enfin, ce qu'il y avait, moi, ce que je trouvais d'assez formidable, justement, c'était ce sens du raccourci qu'il avait. C'était des chansons... Et à mon avis, à mon humble avis, ça a été la période la plus intéressante, enfin, de l'écriture de Léo, parce que je pense que c'était surtout ça, sa marque. Après, il s'est mis à écrire des textes qui disaient, d'ailleurs, souvent, et à écrire des choses qui étaient très longues, là, qui duraient 5, 6, 7 minutes, et où ça partait un peu dans tous les sens. Enfin, et je veux dire que moi, j'évoluais pas de la même manière. Donc, je suis resté avec les anciens textes que j'ai continué à chanter parce que je trouve qu'ils prennent pas une ride et qu'ils se portent toujours très bien.
Nous aurons du pain doré comme des filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille, même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches, et le plus souvent, lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Nous aurons des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qui là-haut se promènent, mais notre âge alors sera là. À deux pas de l'étoile, les jours de grand vent. Nous aurons l'hiver avec une cigale dans ses cheveux blancs. Nous aurons l'amour dedans tous nos problèmes. Et tous nos discours finiront par « Je t'aime, vienne, vienne, alors, vienne l'âge d'or. »
traversait jamais des prés, était à ce moment-là le village, car à 9h30, 10h du soir, il ne passait que quelques voitures. Tout juste, quoi, en fait. C'était vraiment un endroit très calme. Et avec les vieilles pierres, on s'attendait toujours à voir autour de, au détour d'une rue Apollinaire ou Verlaine ou M. Valéry ou M. Racine. Enfin, c'était vraiment un endroit très chouette. Je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Quand je travaillais encore à Saint-Germain-des-Prés, parce que maintenant on se plaint, on dit que j'ai oublié les copains de Saint-Germain-des-Prés. Or, je n'y ai jamais eu de copains à Saint-Germain-des-Prés. J'ai oublié la vache enragée à Saint-Germain-des-Prés. Ça, j'y tiens beaucoup. Et un soir, en sortant d'un cabaret, j'ai vu dans le caniveau un noir qui avait sans doute trop bu. Il avait d'ailleurs encore la bouteille à la bouche. Et en rentrant à la maison, j'ai écrit une chanson. Alors je pense que, justement parce que je me trouvais dans ce quartier, que j'ai pu écrire cette chanson qui s'appelle « Dieu est nègre ».
Il y avait dans la gorge à Jimmy tant de soleil à 300 pales, du blues, du rêve et du whisky, tout comme dans les bars de Pigalle. Dieu est nègre, c'est à la une des quotidiens. Ça fait du tort aux diplomates. Jimmy l'a vu au petit matin avec un saxo dans les pattes. Dieu est nègre, Armstrong est reçu chez le président. Il est allé sans sa trompette depuis qu'il est entré là-dedans. C'est plus du blues, c'est de la tempête. Dieu est nègre, ça fait du bruit dans le monde entier, à faire danser tous les cimetières, les orgues à Saint-Germain-des-Prés, en perdre le souffle et la prière. Dieu est nègre, il a des petits cheveux d'argent qui font au ciel comme des mirages, et dans sa gorge il y a du plein chant comme dans les bars du Moyen Âge. Dieu est nègre, et dans la gorge à mon Jimmy, il y a du soleil à 300 pales, du blues, du rêve et du whisky, comme dans les bars de Pigalle. Dieu est nègre, et dans l'aube grise est toute glacée, Jimmy s'endort dans le caniveau en jouant de la trompette bouchée. Dans sa bouteille de Jericho, pauvre et maigre.
Et
Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, en général, il avait un départ. Un départ qui consistait en une phrase parlée et une phrase musicale. C'était ça, le départ. Il trouvait un truc. Et puis, il avait vraiment une très, très grande facilité d'écriture musicale. Et puis, le reste aussi, l'écriture écrite aussi. Et quand il était en forme, il écrivait souvent, je ne sais pas, 5-6 chansons dans la semaine, comme ça, les bonnes époques. Non, ce n'était pas du tout quelqu'un qui se remettait à l'ouvrage. Ce n'était pas du tout un bosseur, c'était un type d'instinct. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de points communs avec Trenet, de ce côté-là. Enfin, je pense que c'est des gens très, très doués, comme ça, et qui écrivent d'un seul jet, qui trouvent une mélodie comme ça toute seule, et en général, les phrases venaient tout de suite derrière aussi. Non, il allait très vite quand il écrivait. Très très vite. Ça venait comme ça, d'instinct.
La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe, je meurs. De ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment, on l'arrive au port de justesse. Il pleure de mon firmament, des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser. Et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre. Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des colimons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle quand il gueule de ces temps-là le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume, cette barre des chevaux au ras des rocs qui se consument, au l'ange des plaisirs perdus, aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont plus qu'un chagrin de ma solitude. Dans le port fanfare les corps pour le retour des camarades. Au parfum rare des salons, dans le poivre feu des gerçures, quand j'allais géométrisant mon âme au creux de ta blessure, dans le désordre de ton cul poissé dans des draps d'aube fine, je voyais un vitrail de plus. Toi, fille verte, mon spleen. Les coquillages figurant sous les sunlights cassés liquides jouent de la castagnette tant qu'on dirait l'Espagne livide. Dieu, des granites, ayez pitié de sa vocation de parure. Quand le couteau vient s'immiscer dans leur castagnette figure, et je voyais se compressant quand tout en pressant l'entrevoyure entre les persiennes du sang et que les globules figurent une mathématique bleue dans cette mer jamais étale d'où nous remonte peu à peu cette mémoire des étoiles. Cette rumeur qui vient de là, sous leur copain où je m'aveugle, ces mains qui me font du fla-fla, ces mains ruminantes qui meuglent. Cette rumeur me suit longtemps, comme un mendiant sous l'anathème, comme l'ombre qui perd son temps à dessiner mon théorème. Et sur mon maquillage roux s'en vient battre comme une porte, cette rumeur qui va debout dans la rue aux musiques mortes. C'est fini la mer, c'est fini, sur la plage, le sable belle, avec ses moutons d'infini. Quand la mer bergère ma peur.
À cette époque-là, à part Trenet, c'était quand même une exception, l'auteur, compositeur, interprète. Et c'était souvent les interprètes qui faisaient connaître les auteurs à l'époque. C'était les interprètes qui tenaient le haut du pavé, si je puis dire, à cette époque-là.
Elle tourne et se fout